Bonjour, aujourd'hui on va regarder de plus près plusieurs actualités importantes en Afrique centrale et de l'Ouest. On se base sur les infos d'Africa Press du 16 mai.
Bonjour. Oui, l'objectif c'est de décortiquer un peu tout ça, de voir ce qu'il y a derrière les gros titres pour mieux saisir ce qui se joue dans ces pays.
Exactement. Alors, au programme, le Cameroun et les tensions préélectorales, le Gabon et la Guinée après les coups d'État, la crise au Tchad, et puis un hommage sportif aussi au Cameroun.
Tout à fait. On va essayer de couvrir l'essentiel.
Allez, on commence par le Cameroun. Il y a eu cet accord, là, le 9 mai, entre ELECAM, l'organe électoral, et l'ONU. L'idée, c'est d'optimiser les élections d'octobre 2025. Plus de transparence, tout ça, ça a l'air bien, non?
Bah, sur le papier, oui, ça sonne bien. Mais alors, du côté de l'opposition, ça grince fort. Le MRC, le parti de Maurice Kamto, ils sont très critiques.
Ah oui, pourquoi pas?
Ils disent qu'ils ont découvert ça sur les réseaux sociaux. Aucune consultation préalable des partis politiques. Donc, pour eux, ça sent un peu la manœuvre pour donner une caution au nid au processus, mais sans régler les vrais problèmes.
Lesquels, par exemple?
Bah, la demande d'audit du fichier électoral, la publication des listes, des choses qu'ils réclament depuis longtemps et qui restent sans réponse. Ils craignent que ça serve juste à légitimer le régime de Paul Biya.
D'accord. Et les CAM, ils répondent quoi?
ELECAM, via son président Anou Abraham Segbe, dit que c'est juste une assistance technique, que ça rentre dans leur mandat d'expertise et que ça ne change rien au financement national des élections. Une défense assez technique en fait.
Donc on a l'ONU qui arrive pour aider, mais ça ne rassure pas tout le monde, loin de là.
C'est ça. L'argument technique est peut-être valable, mais se heurte à un gros problème de confiance. Quand le dialogue est absent en amont sur un sujet aussi sensible, même une aide technique peut être perçue comme une ingérence ou une validation par défaut. Ça montre bien que la confiance, c'est clé.
Absolument. Bon, on reste au Cameroun, mais pour une nouvelle beaucoup plus triste. Le décès d'Emmanuel Koundé.
Oui, une figure immense du football camerounais qui disparaît à 68 ans. L'ancien défenseur des Lions indomptables.
Un pilier de la grande époque, hein?
Ah oui, la génération dorée des années 80. Il a gagné 2 CAN, 84-88, il était au Mondial 90. Un joueur clé du canon Yaoundé aussi. Reconnu pour sa technique, son sens tactique, c'était vraiment un grand défenseur.
Et au-delà du terrain.
C'était un symbole de sérieux, de dévouement, d'esprit d'équipe. Vraiment un modèle pour beaucoup de jeunes. Une grande perte pour le football africain.
On change de pays maintenant. Direction le Gabon. Là, il y a eu un coup de théâtre, on peut dire. La libération d'Ali Bongo et de sa famille.
Oui, après 19 mois de détention suite au coup d'État d'août 2023, ils ont été libérés et transférés à Luanda, en Angola, ce 16 mai.
Comment ça s'est fait?
Apparemment, c'est le résultat d'une médiation menée par le président angolais João Lourenço, qui est aussi le président en exercice de l'Union africaine. Il a négocié ça avec le général Oligui Nguema.
Donc, un rôle important de l'UA et de l'Angola.
Exactement, ça montre l'importance de la médiation régionale. Mais attention, il faut nuancer. Pour Sylvia et Noureddine Bongo, l'épouse et le fils, c'est une libération provisoire.
Ah d'accord, ils sont toujours poursuivis.
Oui, pour des accusations de détournement de fonds publics, de blanchiment d'argent. Donc la justice continue son travail, c'est pas une amnistie générale, quoi.
Compris. Intéressant. On passe en Guinée maintenant. Là aussi, des tensions politiques, avec une arrestation.
Oui, l'arrestation de Sékou Kondé, le secrétaire permanent du RPG, l'ancien parti au pouvoir, celui d'Alpha Condé. Il a été arrêté le 15 mai au siège du parti à Conakry.
Et on sait pourquoi? Dans quelles circonstances?
Il semblerait qu'il était sur le point de dénoncer publiquement des membres de son propre parti qui soutiennent la junte militaire, le CNRD.
Ah, donc une affaire interne au RPG qui tourne mal.
Oui, mais le RPG dénonce ça comme une atteinte aux droits politiques. Il rappelle que le parti est déjà suspendu par la junte depuis mars. Ça montre un climat politique qui se tend, qui devient assez répressif, on dirait.
Oui, ça sent un peu le verrouillage, non? La junte est là depuis septembre 2021.
Exactement. Ça pose de sérieuses questions sur la liberté d'expression et l'espace pour l'opposition politique, alors qu'on approche de la fin théorique de la transition. Terminons ce tour d'horizon par le Tchad. Situation très préoccupante là-bas, sur deux fronts, politique et sécuritaire. L'opposant, Success Masra, a été arrêté. Oui, l'ancien Premier ministre et leader du parti Les Transformateurs, interpellé le 16 mai, et les accusations sont très lourdes.
Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ?
Incitation à la haine via les réseaux sociaux, mais aussi, et c'est là que ça devient très grave, complicité d'assassinat et incendie volontaire.
Complicité d'assassinat? Mais en lien avec quoi?
en lien avec une attaque intercommunautaire extrêmement violente qui a eu lieu juste avant, le 14 mai, à Mandakao.
Oui, j'ai vu ça. Terrible. 41 morts, surtout des femmes et des enfants, c'est ça? Des maisons incendiées?
C'est ça, dans le Logone occidental. Un drame absolu qui montre la fragilité des équilibres locaux. Les autorités ont fait pas mal d'arrestations après l'attaque, 82 personnes je crois.
Et l'arrestation de Masra arrive juste après. Lui qui critiquait la transition menée par Mahamat Déby.
Justement, le timing interroge beaucoup. Masra venait de critiquer la gestion de la transition. Son parti dénonce une arrestation politique, une tentative de le faire taire en le liant à ses violences. Il parle d'arrestation forcée et illégale.
Donc on a cette violence intercommunautaire terrible et en même temps l'arrestation d'un opposant politique majeur lié à cette violence. C'est complexe.
Très complexe et très inquiétant. D'un côté, il y a ces conflits locaux profonds qu'une simple réponse sécuritaire ne réglera pas sur le fond. De l'autre, cette arrestation qui fait craindre une restriction drastique de l'espace démocratique alors que la transition est censée s'achever en 2025, c'est une situation explosive.
Bon, si on essaie de résumer tout ça, on a vu des tensions autour des élections au Cameroun. Une libération sur fond de médiation mais avec des poursuites au Gabon, une crispation politique évidente en Guinée, une double crise sécuritaire et politique au Tchad, et bien sûr l'hommage à Emmanuel Koundé.
Exactement. Et au fond, tous ces événements, qu'il s'agisse de transition post-coup, de préparation électorale ou de gestion de crise sécuritaire, ils posent une question centrale. Hein.
Laquelle ?
Quelle place reste-t-il pour les aspirations des citoyens ? Pour la justice, la transparence, une vraie participation politique. Est-ce que ces événements sont des opportunités ou est-ce qu'au contraire, ils finissent par étouffer ces demandes? Le dialogue constructif semble souvent bien difficile à établir dans ces contextes. C'est une question qui reste ouverte.